VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon. Il est 16h, temps universel. Bonsoir, bienvenue. Le président Vladimir Poutine va rencontrer lundi son homologue américain Barack Obama à New York, où les deux chefs d'État doivent prononcer un discours devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, a annoncé aujourd'hui le Kremlin. Il s'agit de la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis un entretien bilatéral en juin 2013 en Irlande du Nord lors d'un sommet du G8. Depuis l'affaire Snowden et surtout la crise ukrainienne, ces deux événements ont empêché toute rencontre officielle entre le président Obama et son homologue Poutine russe. Ils se sont toutefois entretenus régulièrement au téléphone et ont échangé quelques mots en marge d'événements comme le 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie. C'était le 6 juin 2014. En Arabie Saoudite, pas moins de 717 morts et 805 blessés. Le dernier bilan de la bousculade de pèlerins aujourd'hui à Mina, près de la Mecque, pendant le dernier rituel du Hajj avant le festival d'Aïl Al-Ada. On écoute le témoignage d'un journaliste ivoirien envoyé spécial de la Mecque de la radio Al-Bayan, Koïta Makalou.
On peut estimer à plus d'un million de pèlerins qui se dirigeaient vers la Jamarat, qui est dans le pèlerinage musulman, le site où les pèlerins vont lapider, qui est présenté par trois stèles. Et aujourd'hui, 10e jour du mois de pèlerinage, les pèlerins devaient s'orienter vers ce stèle qui est le plus grand pour lapider cet caillou qui est représenté bien entendu par le Satan. Alors, chemin faisant, il y a eu la bousculade entre les pèlerins au niveau de la rue 204, non loin de la Jamarat, ce qui a entraîné malheureusement la mort de ces 717 pour le moment ici à Mina.
Au Yémen, un attentat est survenu aujourd'hui à Sanaa. L'État islamique a revendiqué l'attaque qui a fait 25 morts et des dizaines de blessés parmi des fidèles chiites dans une mosquée de Sanaa. Donc, les précisions, Lucie Lamon.
L'attaque a visé la mosquée Balili de Sanaa, fréquentée par des chiites houthis. À l'aube, une bombe a explosé pendant la prière de la fête du sacrifice. L'explosion a provoqué la panique parmi les fidèles qui se sont rués vers la sortie où un kamikaze s'est fait sauter. Le responsable de la sécurité de la mosquée a expliqué que les auteurs de l'attentat ont introduit trois charges explosives dans le bâtiment. Selon des sources médicales, le bilan total est de 25 morts. 20 fidèles sont décédés sur place et 5 en arrivant à l'hôpital. Les blessés se comptent par dizaines. L'État islamique a revendiqué l'attentat dans un communiqué diffusé par des sites djihadistes.
Et le pape François a exhorté aujourd'hui les élus américains à mettre la finance, l'économie et la technologie au service de la maîtrise des défis, des guerres, du changement climatique et des inégalités, mettant aussi en garde contre le danger du fondamentalisme. Saluant le Congrès comme la maison des hommes courageux, le pape s'est référé à des Américains illustres, d'Abraham Lincoln à Martin Luther King, et sous les applaudissements nourris, il a condamné le fondamentalisme religieux ou non et mis en garde contre le réductionnisme simpliste qui voit seulement le bien ou le mal, ou les justes et les pécheurs. Le pape François a aussi appelé à des actions courageuses contre le changement climatique, assurant que les États-Unis avaient un rôle important à jouer. Au pied du Congrès américain, des dizaines de milliers de personnes ont pu regarder le discours du pape retransmis sur de grands écrans. Il s'agissait du premier discours d'un pape devant le Congrès américain.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Retour sur le continent au lendemain du rétablissement des autorités de transition au Burkina Faso. Ouagadougou revient petit à petit à la normalité. D'après l'AFP, les banques et les stations d'essence fermées ces derniers jours avaient rouvert en ce jour férié de la Tabaski, la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. En raison donc de l'Aïd, le président du régime de transition, Michel Kafando, qui a repris les rênes du pouvoir mercredi, a repoussé son premier conseil des ministres post-coup à demain, vendredi. Le président Kafando a aussi annoncé la reprise des préparatifs des élections, initialement prévues le 11 octobre. La nouvelle date du scrutin n'a pas encore été fixée, le premier ministre évoquant mercredi un report de plusieurs semaines. Au Nigeria, des présumés voleurs de bétail peuls ont tué 4 personnes, dont un policier et un chef de village dans le centre du pays où s'affrontent régulièrement des éleveurs nomades et des agriculteurs. L'incident est survenu mardi soir dans le village d'Alawa, dans la zone de gouvernement local de Chiroro de l'État de Niger, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police Bala Elkana. Et nous en arrivons à nos dossiers dans ce journal. Il nous mène au Burundi où le président Pierre Nkurunziza ne va pas négocier, ne va jamais négocier tant qu'il détient le rapport de force. C'est en tout cas l'analyse de l'ancien représentant au Burundi du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Ismaël Diallo, joint à Ouagadougou.
Oui, tout le monde veut cela, mais est-ce que c'est une perte de temps ? Pour le pouvoir, apparemment oui, puisque le pouvoir actuellement à Bujumbura dit qu'il ne négociera pas avec ceux qui se sont élevés contre, contre lui et ont été comme des insurgés. Alors, tant que le pouvoir estimera que la force est de son côté, il ne négociera pas, il ne discutera pas. Il faudra malheureusement attendre que le rapport de force change de camp pour qu'il soit contraint et forcé à négocier. Mais qu'est-ce que l'extérieur peut faire de plus rapide et de plus déterminant ? C'est difficile à dire lorsque une intervention directe n'est pas à l'ordre du jour.
Et quels sont les risques du statu quo ?
Les risques du statu quo, c'est hélas une détérioration accumulée de la situation là-bas, une souffrance accrue des personnes, et surtout les personnes démunies et les personnes à faible revenu, hélas. Et le ralentissement et la détérioration de la qualité des services sociaux, tout cela. Et cela ne contribuera pas à encourager la convivialité entre les Burundais et n'encouragera pas non plus à s'asseoir sur une table, à une table de négociation. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne visiter le pouvoir burundais pour qu'il accepte de négocier. Mais cela ne semble pas, peut-être que lui-même a déserté le pouvoir, le camp du pouvoir à Bujumbura, hélas. Alors il faudrait s'attendre à des jours difficiles tant que le pouvoir s'entêtera à vouloir gouverner par la force et seulement par la force.
Quelle autre marge de manœuvre pour empêcher le pire des pires ?
C'est difficile, c'est difficile à dire. Encore une fois, en dehors d'une intervention extérieure, il faudrait, hélas, que le peuple insurgé soit plus déterminant et il faudrait aussi que le pouvoir ait de moins en moins de puissance de feu. Il faudrait que certaines forces de sécurité et de l'ordre refusent de suivre bêtement et aveuglément le pouvoir, comme cela vient de se passer chez nous au Burkina.
Ismaël Diallo, ancien représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Burundi, joint à Ouagadougou par Eric Manirakiza. Et 50 casques bleus sud-africains de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo vont être rapatriés pour des fautes disciplinaires selon l'armée sud-africaine. Au nombre de 50, ils sont accusés d'être impliqués dans 13 incidents, dont un dans un bar fréquenté par des prostituées à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Le porte-parole du contingent sud-africain de la MONUSCO a précisé à l'AFP que les 50 soldats feraient face à des mesures disciplinaires à leur retour en Afrique du Sud. Et je l'ai dit en début de journal et je le rappelle maintenant, le président Vladimir Poutine va rencontrer lundi son homologue américain Barack Obama à New York, où les deux chefs d'État doivent prononcer un discours devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, annoncé jeudi. Aujourd'hui donc, le Kremlin, il s'agit de la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis un entretien en juin 2013 en Irlande du Nord lors d'un G8. Et résumé du passage du pape devant le Congrès américain, le pape a exhorté aujourd'hui les élus américains à mettre la finance, l'économie et la technologie au service de la maîtrise des défis, des guerres, du changement climatique et des inégalités, mettant aussi en garde contre le danger du fondamentalisme. Saluant le Congrès comme la maison des hommes courageux, le pape s'est référé à des Américains illustres, d'Abraham Lincoln à Martin Luther King. Sous les applaudissements nourris, il a condamné le fondamentalisme religieux ou non. Et il a mis en garde contre le réductionnisme simpliste qui voit seulement le bien ou le mal, ou les justes et les pécheurs. Le pape François a aussi appelé à des actions courageuses contre le changement climatique, assurant que les États-Unis avaient un rôle important à jouer. Au pied du Congrès américain, des dizaines de milliers de personnes ont pu regarder le discours du pape retranscrit retransmis sur de grands écrans. Je vous retrouve dans environ 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité. Au revoir.